première partie, c'est moi qui vais commencer avec Job. Et puis Madame Streuil va continuer. Je vous signale, ça c'est pour le petit commerce, donc que j'ai des livres en quantité et des revues en quantité. Il y avait déjà 5 ou 6 personnes qui m'avaient commandé un livre, on en a donc reçu quelques-uns, enfin un bon nombre, je crois qu'on pourra satisfaire tous ceux qui veulent acheter un livre au prix de 22 euros. Alors il y a 3 revues dans lesquelles Dominique et moi nous avons écrit, soit l'un, soit l'autre, soit même les deux dans la même revue. On en parlera après. Elles sont achetables au prix de 14 euros. Alors aujourd'hui, on va surtout parler du traumatisme et de la manière de réagir au traumatisme. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme ? Pour la psychologie, c'est une notion bien précise. Dans la vie courante, ça veut dire un peu tous les chocs, tous les malheurs, tout ça, mais pour la psychologie, donc, il y a une définition un peu précise. Et donc, dans cette première partie, qu'est-ce qu'un trauma ? Je vais parler, pas comme théologien, mais donc plutôt comme psychologue, en essayant de dégager quelques grandes caractéristiques du traumatisme. D'abord, si on reprend les 4 dimensions de l'être humain, les 4 dimensions anthropologiques, le corps, le psychisme, donc la raison et l'esprit, situons-nous au niveau du corps. Vous souvenez que le bien et le mal pour le corps, c'est le bien, la vie et la santé. Le mal, c'est la mort, la blessure, la maladie. Alors ces choses, bien sûr, peuvent rejaillir sur le psychisme, mais c'est vraiment au niveau du corps que déjà commence la définition profonde du trauma. Trauma veut dire en grec simplement blessure. On peut distinguer bien sûr les blessures physiques sur le corps et les blessures psychiques. Et aussi, dans certains cas, il y a les deux. Donc on ne peut pas distinguer tout à fait l'un de l'autre parce que ça va ensemble. Par exemple, si je perds une jambe dans un accident, ben c'est un trauma physique, mais je suis aussi fortement traumatisé psychiquement. Il faut bien distinguer ces deux choses, le trauma physique et le trauma psychique. Non pas parce qu'il faut les séparer l'un de l'autre, non, mais pour voir comment agir et sur l'un et sur l'autre de manière adéquate. Alors, toute blessure n'est pas un grand trauma. Je peux me casser une jambe et continuer à garder le moral. Mais c'est quand même, c'est quand même un malheur. Alors, ça dépend un peu des gens, des circonstances, etc. Mais je ne suis pas nécessairement détruit, annihilé par un événement comme celui-là. Je ne suis pas nécessairement déstabilisé, attaqué, détruit, comme on peut l'être dans un vrai trauma. Alors, il faut bien distinguer aussi le trauma, la blessure, de la maladie. Même si, de nouveau, il y a des rapports entre ces deux choses. Donc, la blessure, ce n'est pas une maladie. Et la maladie, ce n'est pas une blessure. Si j'ai une jambe cassée, je peux être par ailleurs en parfaite santé. Malheureusement, j'ai une jambe cassée, mais je suis en parfaite santé, je ne suis pas malade. Au contraire, je peux être malade, mais tous mes os sont intacts. Et je ne suis pas blessé, mais je suis malade. Ce sont donc deux choses différentes. Bien sûr, on peut aussi avoir les deux. Avoir à la fois une jambe cassée et la grippe, c'est évident. Mais il faut bien distinguer les deux. De nouveau, comme je le disais, non pas pour les séparer, mais pour agir de manière adéquate à chaque niveau. Le niveau physique et le niveau psychique. Parce que justement, dans les grands traumas physique et psychique, alors que le trauma comme tel n'est pas une maladie, tout à coup on a l'impression que le sujet présente des symptômes de maladie mentale. Alors là, on entre dans la définition un peu vraiment du trauma profond. Après un accident, par exemple, on peut être tétanisé, obnubilé, incapable de raisonner, confus, angoissé, même déliré, n'être plus capable de s'orienter, avoir perdu toute énergie physique, tout contact avec l'entourage. Alors tout ça, ce sont des symptômes qui peuvent être des symptômes de maladie mentale. Mais la personne, non, elle est en bonne santé psychique, mais elle vient de subir un tel choc qu'elle présente, hein, des symptômes qu'on trouve habituellement dans certaines maladies mentales. Alors bien sûr, la personne n'a pas cette maladie mentale, mais elle en présente les symptômes. Et peut-être que si elle les présente durablement et qu'on ne sait pas en s'en sortir, ben ça va presque se transformer en une forme de maladie mentale, si ça devient chronique. Donc voilà, hein, on fait bien la différence entre l'un et l'autre, et pourtant il y a des rapports, et il faut être capable d'agir justement, hein, pour ne pas que s'installent des conséquences gravissimes au niveau du psychisme. Mais pour cela, il faut savoir comment agir adéquatement à chaque niveau. Alors voilà, ça c'était un peu pour la présentation du trauma. Est-ce qu'il y a des traumatismes dans la Bible ? Eh bien, la Bible ne raconte pas l'histoire comme un long fleuve tranquille. Il y a plein de combats dans la Bible. Des combats physiques, des guerres, mais aussi des combats spirituels. Ça peut être l'un et l'autre à la fois, bien sûr. Je prendrai très rapidement quelques exemples, et puis j'approfondirai un petit peu l'exemple de Job et l'exemple de la passion du Christ. La Bible raconte plein de malheurs personnels. Mais est-ce que les malheurs sont des traumas? Par exemple, Abraham, eh bien, il vit une situation difficile parce qu'il a reçu la promesse d'une descendance et sa femme Sarah est stérile. C'est un malheur physique qui affecte Sarah, qui affecte le couple comme tel, qui affecte leur histoire spirituelle. Est-ce qu'on peut considérer cette stérilité comme un trauma? Je ne sais pas, je pose la question à Dominique. Hein. Est-ce qu'une situation comme celle-là est un trauma? D'habitude, plutôt pas, au sens où le trauma souvent implique un élément de soudaineté. On est touché par quelque chose qui est imprévu et qui change une situation qui au préalable était plutôt bonne. Mais quand même, est-ce que être touché par la stérilité ne peut pas être une forme de trauma? Je ne sais pas. Alors Moïse, par exemple, ben, la situation d'esclavage du peuple hébreu en Égypte était vraiment un grand malheur. Ça dure depuis longtemps. Est-ce que c'est un traumatisme? Ben, je ne sais pas. Mais certainement que lorsque Pharaon décide de faire tuer tous les premiers-nés mâles, il provoque un traumatisme au sein du peuple hébreu. C'est un traumatisme individuel pour le papa et la maman, mais c'est un traumatisme collectif pour le peuple. Donc voilà, le trauma peut être aussi quelque chose qui n'est pas que individuel, mais qui est collectif. Même si on n'est peut-être pas touché directement soi-même dans sa famille, on est touché dans son peuple. C'est comme un génocide. Donc là, évidemment, une situation de trauma pour Moïse, et d'ailleurs c'est ce trauma qui va le forcer à aller plus loin et finalement à libérer son peuple, et Dieu bien sûr va l'y pousser et lui donner cette force. Dans la Bible il y a beaucoup de crimes, beaucoup de meurtres. Alors ici à Bruxelles récemment, enfin il y a 2-3 ans je crois, on a présenté une pièce de théâtre avec toute la violence dans la Bible. Et on présentait ça comme étant, que la Bible présente ça, quoi, comme des modèles ou comme des... évidemment, non, ce ne sont pas des modèles, mais la Bible n'hésite pas à montrer ce qui se passe dans tous les peuples et aussi dans le peuple élu. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu va en faire, ce que les prophètes vont faire pour gérer ce genre de situation, pour détourner cette violence, pour l'endiguer avec le décalogue, avec toutes sortes d'autres choses. Donc il y a bien sûr des violences dans la Bible, mais le plus grand trauma de l'histoire biblique, c'est certainement les deux déportations, l'exil pour les tribus du Nord en 722 avant Jésus-Christ et pour les tribus du Sud en 586, d'autant que les tribus du Nord, semble-t-il, ne reviendront jamais d'exil. Ils ont disparu, ils se sont assimilés, on ne sait pas où. Tandis qu'une cinquantaine d'années après, le royaume du Sud a pu se reconstituer, le royaume de Juda. Mais ça, c'est vraiment le grand traumatisme de l'histoire biblique. Hein? Qui d'ailleurs, bon, ben, pour les Juifs, est lu en miroir avec la Shoah. Alors, nous avons vu avec Nagi, souvenez-vous, qu'il y avait la balance de justice, mais qu'il y avait deux types de justice. Il y avait, comme il disait, la justice distributive et la justice rétributive. Alors, c'est son vocabulaire à lui, hein, ce n'est pas nécessairement le vocabulaire de la morale sociale de l'Église, etc. Hein, mais son vocabulaire à lui, c'est pour dire que la justice rétributive, elle concerne des actes ou des absences d'actes que des personnes s'adressent les uns aux autres, les unes aux autres, en fonction de leurs mérites et leurs démérites. Donc on fait du tort ou du bien les uns aux autres, et ça on est dans l'ordre de la justice rétributive. Mais il y a aussi, dans son vocabulaire, une justice distributive, ça veut dire que voilà, en naissant, et dans les situations constantes de la vie, le sort, le destin, tout à coup intervient et distribue les cartes autrement. Alors, dès la naissance, bien sûr, ben, on est le sujet de la justice distributive de la nature qui nous donne ben, deux bras et deux jambes, ou bien au contraire, qui nous donne de l'intelligence ou moins, qui nous pénètre dans un pays en guerre ou dans un pays en paix, qui nous donne toutes sortes d'avantages ou d'inconvénients, si on veut. Hein. Ça, c'est la justice distributive, selon le vocabulaire de Nagi. Mais le lien entre les deux est important pour réfléchir au traumatisme, et notamment avec Job. Alors, je vous rappelle l'histoire de Job, vous la connaissez sans doute plus ou moins. Donc, c'est un livre où il y a énormément de discours de Job avec des amis qui lui disent que c'est de sa faute, etc. Et puis, Dieu intervient, et puis... Mais tous ces discours sont entourés d'un prologue et d'un épilogue. Alors, Sœur Marie David donne un cours le lundi matin sur Job, peut-être que certains le suivent. Bon, là, évidemment, c'est la grande précision. Hein. Ici, je vais aller très très vite. Mais il y a un épilogue, un prologue et un épilogue, qui sont en prose. Alors que tous les autres discours, très très longs, sont en poésie. Donc déjà, stylistiquement, on voit une très grande différence. Et le prologue est capital pour comprendre l'histoire, puisque on commence par décrire le bonheur et l'intégrité de Job. Job est heureux, il a tout ce qu'il faut, il a tout en abondance, plus que quiconque, mais deuxième caractéristique, il est impeccable, irréprochable, intègre. Bon, ça n'arrive sans doute pas à beaucoup d'entre nous hein, d'avoir ces deux qualités à la fois, hein. Mais après avoir dit ça en cinq versets, nous sommes transportés à la cour céleste et Dieu est là qui reçoit les visites de ses serviteurs, etc. Et puis le Satan arrive. Alors le Satan, ce n'est pas Satan, c'est le Satan, ça veut dire l'accusateur, l'adversaire, c'est un nom assez générique. Satan vraiment comme personne, c'est plutôt dans le Nouveau Testament qui va apparaître. C'est d'ailleurs très curieux, mais Job est là, une pierre miliaire d'ailleurs. Hein. Donc c'est, voilà, un surveillant, et Dieu lui adresse la parole, et Dieu prend l'initiative et dit, tu as vu Job comme il est irréprochable. Hein. Donc c'est Dieu qui prend l'initiative de vanter les mérites de Job. Bien mal lui en a pris, si j'ose dire, parce que le Satan dit, oui, mais c'est parce qu'il a tout, hein, c'est parce qu'il a tout reçu, hein, c'est pour ça qu'il est irréprochable. Mais touche à ses biens et tu verras. Hein. Est-ce qu'il t'aime pour rien? Chinam, en hébreu. Est-ce qu'il t'aime pour rien? Pour rien dans le sens de gratuitement, de manière désintéressée, pour toi-même. Non pas comme un mercenaire qui a reçu des récompenses et donc qui reste bien gentil pour ne pas les perdre, pas comme ça, mais vraiment parce qu'il t'aime. Touche à ses biens, touche à ses proches et tu verras s'il continuera à te bénir. Alors bénir et maudire, c'est très important dans le livre de Job. Hein. Et en effet, donc, Dieu permet une première épreuve, une espèce de pari comme ça, très curieux. Alors Job perd tout, tous ses biens, toutes ses possessions, tous ses enfants, mais pas sa femme, et il n'a plus rien. Alors il dit, et vous avez ça sur votre feuille, Alors Job se leva, déchira son vêtement, se rasa la tête, puis tombant sur le sol, il se prosterna et dit, et on connaît ce verset, « Nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. » Yahvé avait donné, Yahvé a repris, que le nom de Yahvé soit béni. Donc là, il fait le contraire de ce que le Satan avait prévu. Il bénit Dieu. Il ne le maudit pas, malgré tous ses malheurs. En toute cette infortune, Job ne pécha point et il n'adressa pas à Dieu de sots reproches. Mais voilà que le Satan revient et il dit « Oui, mais va plus loin dans l'épreuve. Tu verras si vraiment il t'aime pour rien ou s'il t'aime pour les biens que tu lui donnais et qu'il espère peut-être retrouver. » Alors Dieu lui dit « Tu peux toucher à sa santé, mais pas à sa vie. » Ah, deuxième épreuve. Alors en effet, donc il est touché dans sa santé et sa femme lui dit « Mais maudit Dieu !» Et en effet, Job ne bénit pas Dieu, mais il ne le maudit pas non plus. Donc, l'épreuve est poussée un peu plus loin et il se sent un peu moins fort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il n'a pas maudit Dieu, sa femme lui a dit de le faire, il ne l'a pas fait. Des amis viennent de loin et pleure avec lui. Ils déchirent leurs vêtements et pendant 7 jours, ils se taisent. 7 jours et 7 nuits. Est-ce que c'est ça? Je demande à Madame Streub, est-ce que c'est ça aussi peut-être un indice d'un traumatisme, hein, quand tout à coup on ne sait plus rien dire. Et les amis sont quand même présents. Et puis tout à coup, Job ouvre la bouche et qu'est-ce qu'il fait? Il maudit le jour de sa naissance. Ah, il n'a pas maudit Dieu, mais on n'est pas loin, hein? On n'est pas loin. Donc, il maudit le jour de sa naissance. Il fait un long monologue pour dire cela. Et puis, les amis commencent à discuter avec lui pour l'encourager, tout ça. Mais petit à petit, devant l'obstination de Job à dire qu'il est irréprochable, les amis lui disent « Oui, mais tu es irréprochable, mais est-ce que justement, de t'en vanter tellement, ce n'est pas un péché est-ce que ta présomption n'est pas un péché que Dieu, dans sa justice rétributive, est occupé à châtier ? » Mais Job, jusqu'au bout, prétend qu'il est innocent. Ses amis le croient de moins en moins. Et Job prétend donc que personne ne le comprend. Est-ce qu'il y a là aussi peut-être une caractéristique de une personne dans un profond, profond malheur, personne ne me comprend. Alors Dieu prend la parole pour dire que les amis de Job n'ont pas bien parlé de Dieu, mais que Job a bien parlé de Dieu. Pourtant Job, il s'est défendu contre Dieu en disant « Enfin, dis-moi où est ma faute, dis-moi pourquoi, etc. » Voilà. En même temps, donc, Dieu dit que Job a bien parlé, que les amis n'ont pas bien parlé, mais Dieu n'explique pas vraiment la raison de cette souffrance. Et finalement, eh bien, la dernière parole de Job, je vous l'ai mise là en 2 traductions, hein, sur votre feuille de route. La toute dernière parole de Job, ce sont ces 6 versets là qui sont là. Et ce sont des versets très difficiles à traduire. Job est un hébreu difficile. Et il y a, à mon avis, dans le verset 6, dans le tout dernier, hein, dans les autres déjà un peu, mais il y a 2 manières de voir. Alors, ou bien Job dit « Ben voilà, je m'écrase, Dieu a raison, je me tais, je retire tout ce que j'ai dit et voilà, je continue à m'affliger sur la poussière et sur la cendre. » Ou bien au contraire, dans une autre traduction d'un spécialiste là, eh bien on a un Job qui reste un peu combatif et qui prend une décision par rapport à son malheur. Alors là aussi je crois que c'est peut-être intéressant au niveau de l'étude du traumatisme. Donc, je lis la toute première réponse rapidement. Hein, vous voyez Job 42, 1. Et Job fit cette réponse à Yahvé. Je sais que tu es tout-puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Donc, Job fait profil bas. Hein. J'étais celui qui voile tes plans par des propos dénués de sens. Aussi as-tu raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. » Alors il y a un verset là un peu parachuté, on ne sait pas pourquoi. « Écoute, laisse-moi parler, je vais t'interroger et tu m'instruiras. » En fait, c'est un verset qu'on trouve un peu avant, dans la bouche d'un autre, mais pour peu importe. « Je ne te connaissais... » Alors Job dit « Je ne te connaissais que par ouï dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi je me rétracte et m'afflige sur la poussière et sur la cendre. » Donc voilà, ça c'est une traduction assez classique, où on voit Job qui fait profil bas et qui dit « Bon, ben Seigneur, j'ai raconté des bêtises, mais je me rétracte et voilà, je continue à faire pénitence. » Ce Vogel-là propose une autre manière. Alors bon, ben, il faut être spécialiste en hébreu pour voir pourquoi il se permet de faire ça, hein. Mais c'est assez intéressant, je trouve. Et Job fit cette réponse à Yahvé. J'ai souligné ce qui diffère. Tu sais que tu peux tout. Pas je sais que tu es tout puissant, mais tu sais que tu peux tout. Donc tu m'as fait passer cette épreuve parce que tu sais que tu peux tout, quoi. Et qu'aucun plan n'est insondable pour toi. Pour toi. Mais pour moi, point d'interrogation. Tu as dit... Alors là, voilà, hein, ça fait référence à des versets qui sont déjà pris avant, peu importe. « Qui est celui qui masque l'ordre sans connaissance ? Aussi ai-je ainsi parlé, et je ne comprendrai pas des choses trop merveilleuses pour moi. » Eliou a dit « Écoute, laisse-moi parler, tu as dit je vais t'interroger et tu m'instruiras. » Bon, ça ce sont un peu sans doute des extrapolations, comme on dit, des interpolations, on prend un verset, il est parachuté là, on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, les deux derniers versets... De mes oreilles, je t'ai entendu, et maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je laisse tomber, j'abandonne, et je renonce à la poussière et à la cendre. Vous voyez que c'est assez différent, hein, comme lecture. Donc je ne te connaissais que par ouï-dire. Non, j'ai entendu tes discours. Pas par ouï-dire, je les ai bien entendus. Et mes yeux t'ont vu. Ça ne veut pas dire que mes yeux t'ont vu, mais ça veut dire que maintenant j'ai compris. Le franc est tombé, hein. Je vois ce que tu veux faire, je vois ce que c'est que ta manière d'agir. Tu ne m'as pas vraiment expliqué la souffrance. C'est pourquoi je laisse tomber. J'arrête le combat, j'arrête le discours. Et je renonce à la poussière et à la cendre, ça veut dire, et je cesse de faire pénitence. Et je retrouve une vie normale. Ça veut dire finalement, j'essaie pas de comprendre, mais je continue. Je continue, alors que dans la première version, c'est je me rétracte, hein, et je continue à faire pénitence. Ici, c'est presque l'inverse, hein. Il prend la décision de, c'est un problème insoluble, je ne vais plus me casser la tête avec ça, je marche de l'avant, j'abandonne ma pénitence et je reprends une vie normale. Et en effet, après ça, Dieu de nouveau le comble de bien, etc. C'est ce lâcher prise, hein, devant un problème insoluble qui me semble être l'interprétation intéressante de ce verset final. Donc ce n'est pas le verset final du livre, mais c'est la dernière parole de Job dans le livre. Voilà donc, bien sûr, ce n'est pas facile de faire le lien entre le traumatisme et Job. Mais quand même, je trouve qu'il y a peut-être des choses à réfléchir, hein, ce silence, ce très long silence, et puis les amis qui, de consolateurs, deviennent accusateurs, hein, et puis Dieu qui dit « Non, Job a bien parlé de moi, c'est les autres qui n'ont pas bien parlé. » Alors il y a encore une autre curiosité philologique, si j'ose dire, hein, c'est qu'il y a plusieurs noms de Dieu dans la Bible. Il y a le nom qu'on ne peut pas prononcer, le tétragramme, les quatre lettres sacrées, hein, que d'habitude on dit Yahvé ou mais alors il y a d'autres noms, Shaddai, El, Elohim, le Dieu des armées, le Seigneur, etc. Enfin bon, il y a différents noms, et très curieusement le vrai nom de Dieu, le nom le plus profond de Dieu, les amis ne le prononcent jamais, mais Job le prononce, et dans le prologue et dans l'épilogue on trouve le vrai nom de Dieu, pas seulement, hein, mais on le trouve là. On trouve aussi Elohim, etc. Mais le tétragramme, on le trouve dans le prologue, dans l'épilogue, dans les paroles de Job et jamais dans les paroles des amis. Comme si les amis, finalement, parlaient de Dieu sans savoir de qui ils parlent, hein, un peu à côté de la plaque, sans dire son vrai nom, et ils font des discours, mais Job, lui, il sait de quoi il s'agit. Alors, la passion du Christ, dans le Nouveau Testament, bien sûr, nous avons l'habitude de méditer la passion et la résurrection du Christ comme des choses qui s'enchaînent, presque naturellement. Mais il faut bien se rendre compte, et on peut s'en rendre compte bientôt dans la Semaine Sainte, que dans cette passion soudaine du Christ, tout s'est joué en quelques heures, 24 heures à peine, et cela a dû constituer pour Jésus lui-même, et encore plus pour son entourage, un immense traumatisme physique, mais aussi psychique et spirituel. Bien sûr, Jésus pressentait sa passion, il l'annonçait. Mais qu'est-ce que les disciples pouvaient comprendre de cette annonce? La préscience immédiate de Jésus s'exprime dans les évangiles par le récit de la dernière scène, où il se donne, faites ceci en mémoire de moi, par le récit de l'agonie à Gethsémani. Là, on voit que Jésus sait ce qui va lui arriver et est déjà extrêmement touché. Mais il y a aussi la trahison de Judas, puis l'abandon des trois disciples les plus proches à Gethsémani, puis finalement la désertion de tous lorsqu'il porte sa croix, sauf des femmes, dont sa mère, qui sont présentes mais impuissantes, et pourtant extrêmement engagées et bienfaisantes, sans doute. Dans le film de Mel Gibson sur la Passion, on entend Jésus reprendre les paroles du prophète Isaïe et de l'Apocalypse, d'ailleurs, au moment où il tombe, à un moment donné, une de ses chutes. « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » La croix, évidemment, est une violence extrême, mais les sept paroles du Christ en croix sont très importantes pour comprendre comment il vit tout cela. Et l'ordre dans lequel on met les sept paroles est aussi très important. Alors, aucun évangile ne reprend les sept paroles. Il faut aller pêcher à gauche, à droite. Hein. Là, on a trois, l'autre en a quatre, l'autre en a deux, etc. Puis pas dans le même ordre. Bon. Donc, il faut mettre ça en ordre. Et Saint Ignace l'a fait dans les exercices. Et ce qui est fort important, c'est que la parole « Eli, Eli, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné ?» n'est pas la dernière pour Saint Ignace. Hein. Il les met dans un ordre qu'il estime spirituel. Et ce n'est pas la dernière. C'est fort important. Et Maria Valtorta, je ne sais pas si vous connaissez cette personne qui commente les évangiles, avec elle et avec Ignace de Loyola, je voudrais un peu poursuivre la réflexion sur le traumatisme de la croix. Au début de la quatrième semaine, comme vous savez sans doute, Saint Ignace propose la première apparition, qui est l'apparition à Notre-Dame. Alors il dit, je sais bien, l'Écriture n'en parle pas, mais c'est quand même évident. C'est quand même évident, puisqu'on dit qu'il est apparu à bien d'autres. À bien d'autres, ben, si parmi ces bien d'autres qu'on ne nomme pas, il n'y a pas Marie, alors c'est pas possible. Donc, la première apparition, c'est à Notre-Dame, et Maria Valtorta poursuit un peu la réflexion, la contemplation, en disant que justement, Marie et Jean sont toujours restés ensemble jusqu'au pied de la croix, traumatisés sans doute, mais résistant grâce à la foi et surtout grâce à l'amour. Mais comment? Tous les autres disciples se sont dispersés, traumatisés encore davantage, s'il est possible, par le suicide de Judas. Et Maria Valtorta imagine que c'est Notre-Dame qui envoie le disciple Jean auprès de Pierre, qui est perdu, l'a caché quelque part, blessé, honteux. C'est aussi un élément important dans le traumatisme, la honte. Et que progressivement, le disciple Jean, eh bien, va chercher tous les autres tour à tour. Ça prend un certain temps avant que Marie, par sa foi, son espérance, son amour, et par l'intermédiaire du disciple Jean, réussisse à recomposer le cercle des amis de Jésus qui attendront l'Esprit Saint ensemble au Cénacle. Voilà, alors c'est encore une question que je me pose. Est-ce que Marie joue un rôle spécial dans ce grand traumatisme de la Passion qui nous conduit à la résurrection? Une place psychologique sans doute, spirituelle certainement, mais laquelle? Voilà. Dominique, je te cède la parole.
Merci Bernard. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet du traumatisme et surtout des liens qui vont permettre la résilience, c'est-à-dire le chemin de guérison d'un trauma, je voudrais insister sur un petit point important, c'est qu'il y a différentes sortes de travail psychique de guérison. Hein? On a vu déjà comment on pouvait travailler sur la différenciation dans un groupe, comment on pouvait travailler sur les désirs illusions, par exemple liés aux angoisses de séparation dans une famille. On a vu quelques façons de travailler sur les relations familiales. Mais sur le plan individuel, on peut dire que c'est très très différent d'aider quelqu'un sur le plan thérapeutique, quelqu'un qui est traumatisé, ou on va parler du travail de la résilience, quelqu'un, un enfant qui doit grandir, et les parents qui ne savent pas trop comment l'aider à bien se développer, c'est un travail de développement, de croissance, c'est un autre type de lien qu'il faudra construire. Il y a aussi le travail des troubles du désir, hein, donc la psychanalyse a beaucoup... ça, on en parlera aussi quand on parlera de la sublimation, c'est encore un autre type de lien et de relation thérapeutique qu'il faudra construire. Et donc aujourd'hui on va parler de ce lien particulier qu'on construit dans un travail de résilience. Le mot résilience est un mot qui est emprunté à la physique. En fait, il s'agit d'un nombre caractérisant la résistance au choc d'un matériau. Et donc analogiquement, il désigne actuellement le processus psychique et relationnel qui permet de suturer la déchirure provoquée par un trauma. Alors le traumatisme pour un psychiatre n'est pas une épreuve normale de la vie. Hein, donc c'est une épreuve d'une violence complètement anormale qui va casser le psychisme dans la manière dont il s'est construit. Donc tous les repères qui fonctionnaient avant, tout s'effondre. Mais qui détruit aussi les liens relationnels. Donc ça, c'est très important. Par exemple, Michel Delage, je vous ai mis la référence de son livre « La résilience familiale » au tableau. Donc Michel Delage est un psychiatre de l'armée française, donc qui est spécialisé en traumatologie psychiatrique. C'est lui qui est intervenu avec les équipes lors de l'explosion de l'usine de Toulouse, par exemple. Enfin voilà, il a décrit ça dans ses écrits. Tous les traumatismes de guerre, les attentats. Il travaille beaucoup avec Cyrulnik, son équipe de recherche aussi. Alors lui cite les statistiques qui sont quand même assez impressionnantes. Un enfant mort dans une famille, 70% de divorces après, dans les années qui suivent. Un cancer du sein, 70% de divorces après. Un viol dans une famille, 50% de divorce. Voilà. Donc ça montre bien à quel point le traumatisme n'impacte pas simplement une personne, mais aussi les liens. Alors, ce qui est important aussi, c'est que par exemple, quand une jeune fille se fait violer dans une famille, c'est pas toujours la jeune fille qui va être la plus impactée. Parfois, c'est la maman, hein, qui va être celle dont il faut le plus prendre soin et qui va vivre ce traumatisme d'une façon plus grave que sa fille. Hein, donc, voilà, c'est des choses importantes à repérer dans un groupe. Alors, on va prendre l'exemple de Léo, un adolescent de 14 ans, que j'avais déjà en thérapie avec son grand frère et son beau-père et sa mère. Donc, il vit dans une famille recomposée. Et alors qu'on était en pleine thérapie familiale de la famille recomposée, son père se suicide. Et à ce moment-là, tout s'effondre, tout le travail qu'on avait fait, il n'y a plus rien qui tient ensemble. Et Léo est dans une violence terrifiante par rapport à sa mère et son beau-père, et menace de se suicider. Et dans ce premier travail qu'on doit faire pour essayer de garder le lien, d'abord avec moi comme thérapeute, c'est pas évident parce qu'il a il a envie d'envoyer tout promener. Je choisis de travailler le lien à sa mère. Et là, il arrive à exprimer ses émotions. Je crois que cette expression des émotions et de pouvoir accepter cette violence des émotions est très importante dans le trauma. Et donc, il dit à un moment donné à sa mère, « Mais tu ne te rends pas compte des efforts que je fais pour me contenir quand je te vois heureuse avec ton mec et pour ne pas vous buter. » Donc, il y a une impression de solitude tragique parce que sa mère arrive encore à être heureuse alors que son père, à lui, s'est suicidé, hein, parce qu'elle a, elle a fondé un nouveau couple, etc. Et donc ce côté, mais tu peux pas me comprendre, personne ne me comprend, et vous arrivez encore à me faire des remarques parce que j'ai pas fait la vaisselle. Bon, voilà, tu es incapable d'être ma mère. Donc, il lui dit des choses vraiment extrêmement dures. Mais cette femme comprend et elle parle au beau-père. Et après, le beau-père va trouver Léo et lui dit, écoute, ta maman m'a parlé, franchement, je comprends. Et je te demande de m'excuser et fais-moi confiance, je vais diminuer la pression. Et donc, et cet homme, par ses paroles, a vraiment... permis à cet ado d'arrêter cette espèce de projet d'autodestruction dans lequel il était embarqué. Voilà, mais c'est un travail qui va durer des années et puis il va revenir quand il sera jeune homme aussi, s'il va devoir lutter aussi par rapport à ce suicide de son papa pour ne pas entrer lui-même dans des processus d'autodestruction. Mais voilà, c'est pas si facile de réconforter quelqu'un qui vit un grave traumatisme. C'est pas facile quand on partage pas le même degré de traumatisme, mais on va voir aussi que c'est pas du tout facile non plus quand on partage le même degré de souffrance. On est dans un lien où il s'agit vraiment de prendre soin de l'autre, de prendre soin des besoins physiques de l'autre, mais aussi de ses besoins émotionnels, hein, de pouvoir être un contenant, de pouvoir accueillir ce qui vient au niveau des émotions et d'essayer de construire un attachement sécur, c'est-à-dire une relation au sein de laquelle on n'a pas peur de pleurer, on n'a pas peur de crier, on n'a pas peur de se révolter, etc. et que l'autre va tenir le coup. Là, c'était plutôt un avantage que la maman soit moins traumatisée que lui. Alors, le traumatisme et la déchirure du psychisme, l'effondrement identitaire. Le trauma donne un sentiment d'impuissance et de perte de contrôle de sa vie, une perte de sens complète. J'ai pris comme exemple clinique le livre de Lita Basset, « Ce lien qui ne meurt jamais », que certains ont peut-être lu. Lita Basset est une théologienne protestante qui a aussi fait une psychanalyse, donc elle connaît bien la psychanalyse. Elle a écrit beaucoup sur le pardon. Mais elle a écrit ce livre, Ce lien qui ne meurt jamais, après le suicide de son fils. C'est d'abord son journal dans les mois qui suivent la mort de son fils. Et puis 5 ans après, elle relit son journal et elle fait des commentaires sur « Tiens, qu'est-ce qui m'est arrivé? Quel chemin j'ai fait pour sortir de ce traumatisme ?» Je vais vous lire quelques extraits. 14 mai 2001, elle coule dans un épuisement sans fond. Passe des heures sans début ni fin sous la couette, c'est le seul endroit supportable. Un retour instinctif à la vie intra-utérine. Elle a tellement pleuré toute la semaine qu'elle n'a plus de larmes. Avec son mari, elle s'échappe 2 jours en Bourgogne. Plus mort que vif, il se retrouve à Tournu. L'église est en pleine réparation. Bruit, touristes, disparition des bancs. La paix a déserté même leurs chères églises romanes. Elle s'assied par terre, anéantie. La vie s'est arrêtée. Elle ne sait plus vivre, ne saura plus. Donc ils sont partis en couple vers ce lieu où ils avaient des souvenirs de sécurité, où ils étaient bien ensemble. Et voilà, il y a ces travaux, ce bruit. C'est l'effondrement. Tout ce qui faisait sens avant n'a plus de sens. Et alors il va se passer quelque chose que je vais vous lire tout de suite et que Michel Delage appelle la recherche d'un attracteur externe, c'est-à-dire d'un lien à quelqu'un qui va pouvoir servir de support de résilience dans une recherche de transcendance, c'est-à-dire quelqu'un qui est au-delà du malheur mais qui a déjà traversé ce malheur avant moi. Alors, je vous lis la suite. Elle s'assied par terre anéantie, la vie s'est arrêtée, elle ne sait plus vivre, ne saura plus. À cet instant, en un éclair, dans sa tête, son corps, son esprit, sa douleur indicible de mère désenfantée est rejointe par Marie, la mère de Jésus. Elle reprend pied immédiatement. Cela a duré à peine quelques secondes, mais l'apaisement est là. Indéniable. Alors 5 ans après, elle relit ce passage et elle dit Dans les temps d'extrême dénuement, on reçoit sans même s'en étonner la moindre goutte de rosée. Mais aussi les présents les plus imprévisibles. C'est beaucoup plus tard que je prendrai la mesure de l'événement de Tournu. En bonne protestante, élevée certes dans le respect de Marie, mais sans relation personnelle avec elle, je me demande aujourd'hui ce que peut bien signifier une telle visitation, que je n'avais jamais imaginée, ni désirée, même en ces jours dévastés. Je ne peux le nier, c'est venu à moi, de manière fulgurante, dans l'urgence de la compassion, comme si la présence, avec un grand P, posait son trait d'union de feu entre deux mères désenfantées que 20 siècles séparaient. Alors donc, il y a chez Lita Basset, protestante, théologienne protestante, cette découverte de Marie comme ressource au cœur du traumatisme. Comme ressource qui ne va pas faire basculer son identité protestante. Elle ne va pas devenir catholique. Mais c'est quand même parfois la croyance de l'étranger qui vient à notre secours. Un attracteur externe qui fait sortir de soi un besoin de trouver des nouveaux repères parce que tout ce en quoi on croyait avant ne fonctionne plus. Alors c'est quelque chose d'assez fréquent dans la clinique. Et donc aussi cette idée de cet attracteur externe, porteur d'un espoir possible parce qu'il a lui-même traversé cette épreuve. Alors je pense que la Bible est effectivement une ressource pour réfléchir à ça, et je pense à une patiente qui était athée, qui vivait un traumatisme très fort, et puis il y a une de ses amies qui l'amène à une retraite catholique. Elle dit « Bon, écoute, je viens avec toi parce que je ne sais pas faire quoi d'autre, mais je ne suis pas du tout catholique ». Et puis lors de cette retraite, elle vit une expérience spirituelle, et puis elle me dit en revenant « J'en suis sortie, j'ai pu croire que j'allais vivre, quand j'ai compris que croire que l'on peut s'en sortir, c'est croire en quelqu'un. Le sens de ma vie, c'est devenu quelqu'un ». Donc elle avait rencontré le Christ au cours de cette retraite. Et donc pour elle, ça a été une conversion, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est assez fréquent, les gens qui sortent d'une souffrance de traumatisme avec vraiment des ressources spirituelles. Alors Michel Delage dit dans son livre qu'il y a toujours un travail à faire autour des questions existentielles dans les traumas. Parce qu'on ne peut pas échapper à la question du sens. On ne peut pas s'en sortir simplement en essayant de détourner le regard du trauma, de l'oublier, tout est cassé. Donc il y a une nécessité de conversion du regard qu'on avait sur la vie, de trouver un nouveau regard sur la vie. Voilà, on peut dire aussi que croire en quelqu'un qui nous redonne espoir, c'est aussi construire un lien d'attachement sécure. Et que sans ce lien d'attachement sécurisant, il n'y a pas de résilience possible. On reviendra la semaine prochaine aussi sur les questions d'attachement et de troubles d'attachement. Donc le traumatisme attaque les besoins psychiques fondamentaux, le besoin de cohérence psychique, le besoin de sens et le besoin de protection. Le monde avec le traumatisme devient chaotique, imprévisible. On n'a plus de prise sur les événements. Dans ce sens, Michel Delage va parler aussi de traumatisme chronique pour l'émigration, en disant effectivement, on peut parler de traumatisme chronique dans la mesure où il y a une perte de cohérence entre le monde interne et le monde externe, une perte de sens, une désorganisation de ce qui nous avait structuré jusqu'à présent et une perte de lien. Dans ce sens, je pense que l'expérience de la stérilité peut aussi être un désorganisateur au niveau du couple, une perte de sens qu'on avait donné à son couple en se mariant, etc. Et je dirais d'autant plus que la culture ne permet pas justement cet attracteur externe. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait eu des réunions avec deux psychologues musulmanes qui disaient que dans l'islam, la stérilité était vraiment quelque chose de... Enfin, où il n'y avait pas de ressources dans la religion et dans la culture pour sortir de ce traumatisme. Alors on a vu aussi dans le film « Ne m'abandonne pas », comme voilà, ce besoin de protection, ce besoin de cohérence, cette perte de sens, etc., tout ce stress qui en même temps désorganise le lien, mais en même temps est l'occasion d'en construire des nouveaux ou d'en valoriser certains, etc. Mais donc le besoin psychique de protection est un besoin fondamental de l'être humain pour sa survie psychique, et c'est la première chose qu'il faudra mettre en place face à des traumatisés, c'est ce sentiment de liens qui peuvent protéger. Ce qui est typique aussi du trauma, c'est que quand la douleur est trop forte, on n'a pas de mots pour la dire. Quand les émotions sont trop fortes et que les autres ne les partagent pas, on ne se sent pas réconforté. Quand celui qui écoute ne partage pas vos émotions, parfois on arrête de parler parce qu'on se sent seul. On dit, de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre. Et pourtant, les seuls qui peuvent vraiment aider un traumatisé, ce sont les personnes qui ne sont pas traumatisées. C'est pour ça qu'on envoie des équipes d'urgence, de personnes qui sont formées pour, quand il y a une catastrophe naturelle, etc. Il faut du personnel non traumatisé pour prendre soin des traumatisés. Après, quand on va intervenir dans un attentat comme à Zaventem, etc., il faut des équipes de soins aussi pour les personnes de première ligne qui sont intervenues et qui sont traumatisées par les premiers soins qu'elles ont donnés. Donc c'est vraiment toute une structure de mise en place de liens, de réconfort, de supervision, etc., qui est pas facile. Alors, cette découverte que le traumatisme détruit aussi la capacité de se réconforter l'un l'autre, Lita Basset le décrit aussi d'une façon intéressante, donc je vais de nouveau lui donner la parole. Le 19 mai 2001, il vide l'appartement de Samuel avec ses amis, le frigidaire, ce qu'il ne mangera plus. L'état de choc est une protection. On fait ce qu'il y a à faire, même le plus déchirant. Ses habits sèchent au grand soleil. Une parole me vient. Aucun être humain n'est plus proche de moi maintenant que toi, le père de Samuel. C'est son seul repère, sa présence constante, même silencieuse, dans cette île déserte qu'est devenue son quotidien. Une autre parole la traverse. Une de ces paroles dont on ne saurait dire d'où elles sortent. Jamais je ne comprendrai à fond ta douleur de père. Et jamais tu ne comprendras à fond ma douleur de mère. Elle écrit 5 ans après, évidence massive, qui s'est imposée comme un deuil supplémentaire, mais aussi à la manière d'une véritable planche de salut. Aucun humain, et surtout pas le conjoint, n'est capable d'apporter une consolation à la mesure de la perte. Renoncer à exiger ça d'autrui me renvoyait brutalement à ma propre douleur. Et donc aussi la difficulté de l'alliance thérapeutique. On est l'étranger au trauma. On est celui qui ne peut pas comprendre. Et pourtant, il faut quelqu'un d'extérieur qui n'est pas traumatisé pour construire ce lien d'attachement sécure. Alors Michel Delage nous dit à propos de quel lien construire. C'est que dans ces liens qu'on construit, on construit les conditions pour qu'un travail de résilience puisse se faire. Mais on ne peut pas faire ce travail de résilience, bien sûr, à la place des personnes. Mais il faut savoir que les 3 piliers de la résilience sont 1. Construire de l'espoir et du sens. Construire une croyance commune qu'on peut s'en sortir. Faire partager cette croyance à tout le groupe des traumatisés. Parce que pour que la vie reprenne sa cohérence, on a besoin de savoir où on va. On a besoin de croire qu'on va quelque part. Et donc là, on a besoin de témoins qui nous disent, tu vas voir, on va y arriver, on va faire ça, et puis on fera ça, etc. Construire de la protection, 2e pilier. Savoir que l'on peut compter sur les autres, les uns sur les autres. Savoir que l'on peut compter sur la fiabilité des liens, la sécurité des attachements. C'est très présent dans le film qu'on a vu. Alors, au niveau de cette protection, il y a des cas de traumatisme où il faut d'abord s'occuper des besoins primaires. Qu'est-ce qu'on va manger, où on va dormir, avoir un toit, être soigné, etc. Mais il y a aussi tous ces besoins de contenance émotionnelle. Créer une sécurité qui va permettre les échanges émotionnels, l'intersubjectivité, comme on dit. Et puis seulement, 3e pilier, construire une mise en pensée, un récit de l'expérience vécue. Mais surtout ne pas aller trop vite. hein, parce que la parole peut aggraver. C'est pour ça qu'on a développé des thérapies comme le EMDR, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, où avant de demander aux gens de raconter ce qu'ils ont vécu, on leur apprend à avoir un certain contrôle sur leur vie émotionnelle, hein, sur leurs émotions, et à sentir que, voilà, dans le lien, que la parole ne réactive pas le vécu traumatique. Hein. Sinon, si on se contente de raconter ce qu'on peut vivre d'horrible, c'est simplement revivre le traumatisme dans toute son intensité, en présence de quelqu'un qui vous regarde et qui vous écoute, mais qui ne vous protège pas du tout de ce vécu. Hein. Donc voilà, c'est délicat et c'est pas facile. Et donc Lita Basset nous dit encore, ce que la présence insuffle aux humains en ces circonstances-là, c'est un compagnonnage sans prétention, une connivence de frères et de sœurs, pareillement écorchés par la vie, pareillement seuls, mais décidés à se tenir à proximité les uns des autres. N'est-ce pas cela qui les maintient dans le réel, donc dans la possibilité de vivre ? Voilà. Je pensais aussi comme témoignage de ce que ça peut être un traumatisme qui ne finit pas. Hein, c'est le film des hommes et des dieux, où comment ils essayent de se réconforter l'un l'autre pour tenir dans la durée et trouver du sens à chaque moment, etc. Et puis on a célébré Noël, et puis voilà, quand ils font ce récit de comment ils ont vécu depuis cette menace. Alors pour terminer, je vais vous donner quelques indications sur la souffrance liée aux abus sexuels dans l'enfance. C'est quelque chose qui est assez méconnu, et je pense que, voilà, quand on rencontre des enfants qui ont vécu ce traumatisme ou des adultes qui l'ont vécu enfant, je pense qu'il y a des choses qu'il faut connaître justement pour pouvoir les accompagner sur le plan spirituel, sur le plan psychologique évidemment, mais même sur le plan de l'amitié, parce qu'il y a parfois des choses qu'on ne connaît pas au niveau de leur souffrance et qu'il est important de connaître. Alors je rends hommage à Marinella Malacrea, qui est une psychiatre milanaise, qui est retraitée maintenant, et qui nous a donné des formations à plusieurs reprises sur son travail. Pour moi, c'est la personne qui a le plus de finesse dans l'approche et la thérapie des enfants victimes d'abus sexuels, au niveau du diagnostic différentiel aussi par rapport aux fausses allégations. Voilà, malheureusement, elle n'a écrit qu'en italien. La souffrance de l'enfant, elle nous décrit quatre choses importantes. Le vécu d'impuissance, le vécu de trahison. Ces deux vécus-là sont aussi des vécus psychologiques dans la maltraitance. Et alors deux vécus spécifiques des abus sexuels, le vécu de sexualisation traumatique et le vécu de stigmatisation. Je vais vous expliquer en quelques mots ce que ça veut dire. Donc le vécu d'impuissance, c'est le sentiment qu'éprouve la victime d'un abus sexuel de ne plus pouvoir contrôler sa propre vie. Les petites filles expliquent ce sentiment qu'elles ressentent la mort tout le temps, qu'elles ont l'impression de se perdre, de crier sans qu'on entende leur voix. Elles font des cauchemars comme ça aussi, où elles dessinent des dessins comme ça. L'impression que l'abus peut arriver n'importe quand. L'impression d'être coupée complètement de toute ressource. Il y a aussi un livre qui est intéressant, je ne sais pas si vous connaissez, Pédophilia, de Annie Leclerc, où c'est une philosophe qui a... Alors, elle avait écrit ce livre, elle dit d'ailleurs qu'elle est devenue philosophe pour penser la pédophilie, l'abus sexuel qu'elle avait vécu enfant, un abus fait par un étranger de la famille, quelqu'un, un inconnu, mais dont elle n'a jamais su parler à ses parents. Et donc, elle décrit avec, bon voilà, à l'âge adulte, elle a écrit ce livre qu'elle n'a jamais publié elle-même. C'est Nancy Houston qui a publié ce livre pour elle, qui était son amie. Et elle décrit la souffrance de l'enfant, mais avec des paroles d'adulte, d'une façon vraiment extraordinaire, et notamment cette impossibilité de parler, cette impossibilité de trouver du réconfort ou d'imaginer comment ça pourrait s'arrêter. Et même si ça s'est passé qu'une fois, cette impression que ça pourrait se repasser n'importe quand, si on n'a pas pu construire cette protection et ces liens d'attachement sécurs, si on a été coupé de tous ces attachements fiables, Eh bien, alors évidemment, ça peut se repasser n'importe quand. Donc voilà, ce vécu d'impuissance totale, le sentiment de trahison. Alors, ça, c'est très présent, évidemment, dans les abus intrafamiliaux. J'ai reçu du mal de quelqu'un de qui je n'attendais que du bien. Ça casse la possibilité de faire confiance à quelqu'un. Ça, bon, même si c'est un étranger, ça casse la possibilité d'avoir confiance dans les adultes. Hein? Voilà. Donc, ce vécu de trahison, il va poursuivre la personne pendant toute sa vie. Ça ne va pas être facile de lutter contre cette méfiance, hein, de reconstruire cette possibilité d'attachement sécure, justement, hein, qui est justement le contraire d'un sentiment de trahison, de pouvoir avoir confiance en quelqu'un d'autre. Mais alors, ce qui est particulier dans les abus sexuels intrafamiliaux, c'est que la confiance est encore plus cassée par rapport à l'adulte qui aurait dû deviner ou protéger. Donc par exemple, si c'est le père qui a abusé de l'enfant, la confiance va être encore plus cassée, la colère va être encore plus grande par rapport à la mère que par rapport au père. Hein? Et bon, c'est pas évident parce que les... Alors pourquoi ? Même si la mère a cru l'enfant, même si l'enfant a pu parler... L'enfant estime que la mère aurait dû empêcher, elle aurait dû deviner, elle aurait dû savoir, etc. Et donc il y a quelque chose, un vécu de trahison et d'insécurité dans la relation à la mère qu'il va falloir reconstruire, ce qui n'est pas facile à vivre évidemment pour la mère, puisque elle est en plein traumatisme elle-même, hein, si c'est son conjoint qui a fait ça, et en plus elle doit vivre beaucoup plus de violence et d'agressivité de son enfant. Voilà. Alors, ce qui est extrêmement traumatisant aussi par rapport à ce vécu, c'est que la petite fille qui est maltraitée, elle peut se dire, mais au fond, si j'avais été plus sage ou si j'étais plus gentille avec la personne qui me maltraite, peut-être que ça irait mieux. Et effectivement, ça va mieux parfois. Hein. Mais la petite fille qui est abusée ou le petit garçon, il ne peut pas imaginer que ça peut aller mieux. Et en plus, ce qui est extrêmement confusionnant, c'est qu'on a le sentiment qu'on est abusé justement parce qu'on est gentil, justement parce qu'on est beau ou parce qu'on est séduisant. Et donc il y a cette confusion en disant mais donc je peux rien faire pour que ça ne m'arrive plus. Hein? Donc c'est extrêmement troublant au niveau de cette impression d'être pris dans un piège sans issue. Alors, le vécu de la sexualisation traumatique, ça c'est peut-être moins connu, mais c'est très très important à connaître, c'est que ces enfants ont une connaissance de la sexualité tout à fait inappropriée pour leur âge, parce qu'elle est acquise de manière traumatique, et donc parfois des comportements érotisés ou anormaux ou de provocation qui vont faire qu'on va les regarder bizarrement, ou on va les interpeller, ou on va les accuser, ou même à l'adolescence, un côté provoquant, ou même à l'âge adulte. Et donc ce sont, à l'âge adulte et à l'adolescence, un enfant qui a été abusé va être repéré par les abuseurs qui ont l'habitude. Et donc c'est comme ça qu'on a des abus en chaîne, et que, bon voilà, c'est pour ceux qui ont vu l'émission, des personnes qui se font abuser à l'âge adulte, et qui se sont retrouvées complètement paralysées, sans défense, etc., on peut se poser la question, est-ce qu'elles n'avaient déjà pas vécu cela dans l'enfance? Ce qui est très traumatisant aussi au moment de la puberté et au moment où on peut ressentir le désir sexuel, c'est que normalement, dans l'évolution normale de l'adolescent, être désiré ou désirée, ça va ensemble avec trouver quelqu'un chouette, tomber amoureux éventuellement quand tout va bien. Mais ici, le désir, le fait d'être désiré devient synonyme d'être traité comme rien, comme un objet d'avilissement. Donc il y a quelque chose de dissocié entre désir, beauté, relation normale, relation d'amour. Si je suis désiré, c'est que je suis rien, c'est que je suis un déchet. Donc il y a toute la problématique du désir va être complètement perturbée et devra être réparée. Quoi. Quatrième symptôme qui est aussi extrêmement douloureux à vivre, hein, donc ce vécu de sexualisation traumatique est extrêmement douloureux à vivre. Je pense à une maman qui était venue consulter parce qu'elle avait été abusée par plusieurs hommes dans son enfance, et comme maman, elle était terrorisée, tout le traumatisme revenait parce qu'elle avait peur de prendre ses enfants dans les bras et de les toucher. Elle avait peur de leur faire du mal. Il y avait vraiment un effondrement traumatique au moment où elle est devenue maman. Le vécu de stigmatisation vient du monde extérieur, mais pas seulement, aussi du monde intérieur de l'enfant. Mais l'abus sexuel provoque l'horreur et la terreur dans l'entourage direct. Hein? Donc, une institutrice qui voit une petite fille jouer à mettre en scène des jeux sexuels avec ses compagnons, ben, elle va appeler l'enfant, elle va lui dire qu'elle ne peut pas faire ça, qu'il faut en parler, où est-ce qu'elle a vu ça, etc. Et la fillette va être complètement terrorisée par ce qui lui arrive. Hein? Donc elle va avoir l'impression qu'elle est devenue un monstre pour tout le monde. Et forcément, puisqu'elle a fait des choses monstrueuses. Et donc il y a toujours une culpabilité énorme chez ces enfants, hein, qui ont l'impression d'être devenus un monstre. Et donc, voilà, tout ce vécu-là, c'est quelque chose qui va devoir aussi être traité, parfois à l'âge adulte, etc. Donc, je vois qu'il est l'heure. Donc, en conclusion, on peut dire que cette place de construire du lien, comme passeur d'angoisse, comme thérapeute, comme accompagnateur spirituel, comme ami, comme famille, etc., est très différente suivant le type de problème qu'on identifie. Et voilà. On a vu aussi que ce travail de la résilience implique un travail spirituel autour des questions existentielles. Donc je pense que la place des accompagnateurs spirituels est très importante. Mais cela demande un engagement important et fiable de la part des personnes qui acceptent d'accompagner quelqu'un. Hein, quand on a reçu les confidences de quelqu'un, quand quelqu'un a osé vous parler, ben, c'est une responsabilité d'accueillir ça, et voilà, si on ne peut pas le porter, il vaut mieux envoyer ailleurs ou construire un filet de sécurité avec plusieurs personnes, etc. Mais il ne faut pas laisser quelqu'un s'embarquer trop loin dans le lien si on n'est pas capable de le porter. Voilà.